Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde. Bienvenue Stéphanie.
Bonjour, bienvenue Hans.
Nous sommes en tête à tête aujourd'hui au studio, c'est une première, voilà. Donc, comme toujours, enfin depuis quelques fois, on va d'abord parler avec une personne de la délégation belge qui se trouve sur un des bateaux, notamment la Tifa. Et donc maintenant, je vais essayer de l'appeler un instant.
Allô.
Bonjour Latifa, c'est Hans ici, de Radio Free Gaza.
Bonjour Hans, bonjour Hans.
Bonjour Latifa.
Tu m'entends bien?
Bonjour Latifa, c'est Stéphanie.
Bonjour Stéphanie, vous allez bien?
Mais oui, et toi?
Ça va, ça va, ça va beaucoup mieux.
C'est
ça
vrai?
Ça va beaucoup mieux, oui.
Et pourquoi
ça va mieux? Parce qu'on a eu en fait une première nuit qui a été très difficile.
Ouais.
On a traversé une tempête. Et donc, il y avait des vagues de 5 mètres. Et on va dire que le bateau tanguait énormément.
Ouais.
Et la moitié des passagers du bateau, ben, nous étions malades. Et ouais. Nous... Oui, donc c'était une nuit vraiment très, très agitée et très difficile pour certains d'entre nous. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux.
On est content d'entendre que la mer... est plus clémente avec vous et que ça doit être beaucoup plus agréable. Et sinon,
oui,
dis-nous, comment ça se passe? Quelles sont tes impressions jusqu'ici?
Eh bien, honnêtement, j'avais eu un peu d'appréhension, oui, justement, par rapport donc, au bateau que j'allais prendre. Enfin, je veux dire, je ne savais pas le type de bateau que j'allais... dans lequel j'allais plutôt naviguer. Donc, je l'ai su vraiment à la toute dernière minute. Je peux m'estimer, je veux dire, je suis plutôt contente parce que je suis dans ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, un ancien yacht,
okay.
Qui a 60 ans, je pense, quand même. C'est un vieux bateau, un très vieux bateau. Mais par rapport à certains autres, je pourrais dire qu'il est confortable. Voilà,
d'accord.
Je pourrais dire qu'il est confortable. Oui.
D'accord. Et quel est, enfin, il y a combien de personnes avec toi sur ce bateau?
Nous sommes une dizaine. Donc, il y a plusieurs activistes, une française, une irlandaise, une brésilienne. Il y a quelques turcs. Regardez autour de moi pour voir si j'ai oublié. Donc, une française, je vous l'ai dit. Il y avait une française également. Voilà. Et certains, deux Allemands, je pense, d'origine allemande. Voilà.
Ah, mais c'est pas mal. Ça fait une belle représentation.
Oui.
Et quel est votre état d'esprit en fait, puisque en ce moment vous êtes à l'arrêt. Hein.
On a repris la route.
Ah, vous avez repris la route.
Oui, oui. En fait, on.
Nous avons des petits problèmes de connexion.
Il y a plus ou moins une heure, plus ou moins. Et voilà, on est en train de naviguer vers Tunis.
Ouais.
Et notre état d'esprit, j'ai remarqué, enfin tous, en tout cas tous ceux qui étaient malades, sont en meilleure forme aujourd'hui. Donc
super. Moi, super.
qu'on savait rien faire vraiment. Quand on était malade, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, on a un petit peu nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, on a cuisiné, on a mangé. Et sinon, vraiment, malgré la première nuit difficile, ça, je vais dire, il n'y a eu aucun impact sur notre motivation d'être là, ça c'est sûr. Vraiment, tous ceux qui sont ici, on est vraiment honorés et heureux d'être là. Et nous voulons vraiment aller jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude, quoi.
C'est
Voilà, ça,
parfait.
c'est l'état d'esprit.
C'est génial à entendre. Et demain, parce que tu parles de Tunis, mais donc demain, le départ, le deuxième départ, c'est fait de Tunis. Ça veut dire que vous allez récupérer beaucoup d'autres bateaux avec vous pour vous accompagner. Ça doit être aussi quelque chose que vous attendez, non?
Oui, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va être impressionnant. Et j'ai un peu déjà regardé certaines vidéos donc des personnes qui sont à Tunis, hein, qui arrivent petit à petit. Donc j'ai vu un peu les vidéos sur Insta. Et oui, ça nous encourage. Et je suis contente de voir qu'il y a aussi pas mal de personnes là sur place qui vont nous rejoindre. Et nous reprendrons donc la route à ce moment-là vers Gaza, si Dieu le veut.
Ouais. Et est-ce que vous avez des contacts avec vos proches ou c'est compliqué ou c'est pas permis ou...
Non, nous avons des contacts, nous avons accès à Internet pour le moment.
OK.
Voilà, donc nous avons des contacts et ce qui nous permet aussi de pouvoir poster sur Instagram parce que voilà, on veut essayer de partager le plus possible, parler donc de cette mission et que les gens, enfin que ça sensibilise les gens et que de plus en plus de personnes en parlent parce que c'est très important. Voilà, mais sinon, non, nous avons toujours des contacts avec nos familles et nos proches.
C'est parfait.
Nous avons vu sur Al Jazeera. Al Jazeera, ils ont sur leur site, ils ont un live ticker, donc ils vous suivent. Et ils postent régulièrement des mises à jour. Et ils ont dit que
Oui.
vous avez été survolé par des drones cette nuit.
Alors, notre bateau, enfin, nous particulièrement, nous n'avons pas vu de drone, mais je sais que certains bateaux, oui, ont été survolés par deux drones. Je pense que c'était le bateau de où se trouve Greta Thunberg. Oui, apparemment. Et c'est pas la seule chose qu'il y avait. Je pense qu'il y avait également, parfois, certains bateaux ont été approchés par des petits bateaux, mais je n'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas exactement qui étaient ces gens et dans quel but, ils ont approché les bateaux.
Oui, il se trouve que la zone où vous êtes, évidemment, Méditerranée, c'est une zone qui est très survolée par les drones de plein
Voilà, c'est
d'origines
ça.
différentes. Donc, oui, tout à
Oui,
fait.
voilà. Donc, je n'ai aucune idée si c'est, voilà, si ça est, de quelle origine, je veux dire, ces drones, s'ils viennent d'Espagne ou tout simplement, ben, voilà, de
Oui.
l'entité sioniste. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas.
Ok, ben Latifa, est-ce que tu as encore un message pour les gens qui nous écoutent?
Oui, ben le message que je vais faire passer, c'est de leur dire de nous suivre, de partager les informations. Et pour ceux qui sont en Belgique, il y a une manifestation qui se déroule le 7 septembre. Donc je vous demande de sortir le plus possible pour manifester, pour dénoncer ce génocide. Et voilà, Free Palestine.
Ouais, et moi je vais juste ajouter que comme je le fais, comme j'ai eu l'occasion de le faire depuis le début de la flottille avec toutes les personnes qu'on a eues en live jusqu'ici sur les bateaux, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien d'ici et beaucoup de soutien extérieur, même si vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous en rendre compte exactement, mais c'est le cas. Et donc c'est important de te le dire et c'est important que tu puisses le transmettre aussi aux personnes autour de toi.
D'accord, je vais le faire. En tout cas, ça fait chaud au cœur parce qu'on a vraiment besoin de soutien. On est déterminés, mais le fait de savoir qu'on est soutenu, ben, ça nous donne plus de force. Voilà.
Ouais, et
Et
dimanche,
ça fait plaisir.
tout à
Oui,
fait. Et
oui.
dimanche, on vous emporte avec nous à la manif.
Oui, c'est très gentil. En tout cas, sortez vraiment, sortez. Les belles, s'il vous plaît, sortez et allez manifester. Ouais.
OK. Ben, merci
Merci
beaucoup,
beaucoup.
Latifa, et
Merci à vous.
certainement à une prochaine fois.
Merci.
À très bientôt.
À
Merci.
bientôt.
Au revoir. Au revoir.
C'est interdit d'être ici. Hein.
Voilà, tantôt nous allons passer en interview avec Christophe Wasinski, qui va parler d'armement. Tu peux le présenter un petit peu? Ouais, il va se présenter
Il va se
lui-même,
présenter
j'imagine.
lui-même, oui, c'est plus facile, je pense.
Donc voilà, donc on va faire ça. Un instant. Voilà, on y va.
Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphanie.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement ?
Bien sûr, je m'appelle Christophe Wozinski, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles et je mène des recherches, notamment sur les questions de sécurité internationale, les questions d'armement et de désarmement.
Eh bien, parfait, parlons armement alors. La première question, c'est d'où vient l'armement qui est utilisé par Israël en ce moment à Gaza et qui semble être tout à fait sans fin ?
Oui, alors je dirais que cet armement provient de quatre sources essentiellement. Tout d'abord, l'armée israélienne, les forces de sécurité israéliennes utilisent des équipements qui sont produits localement, qui sont produits en Israël. Il y a une industrie d'armement israélienne qui est assez importante et donc qui construit des équipements qui sont achetés par les forces de sécurité israéliennes et qui sont utilisés actuellement à Gaza. Il y a ensuite des équipements qui proviennent des États-Unis. Et les États-Unis soutiennent depuis de nombreuses années l'État israélien et les forces armées et les forces de sécurité israéliennes. Et Israël utilise notamment des chasseurs-bombardiers, des hélicoptères, des obus, des munitions qui proviennent des États-Unis. Il y a ensuite, c'est la troisième partie de ma réponse, des équipements qui proviennent d'autres États, notamment des États européens, en particulier d'Allemagne et de Grande-Bretagne, et puis d'autres États tels que l'Australie, le Brésil, mais c'est des quantités quand même un peu plus limitées. Et puis, j'ajouterai une quatrième partie à ma réponse, si vous voulez. Donc, c'est qu'il y a des équipements, ou plutôt des composants d'équipements, qui sont produits dans de nombreux États à travers le monde et qui sont ensuite exportés aux États-Unis. Aux États-Unis, ces composants sont montés sur d'autres matériels qui sont eux-mêmes exportés aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Il y a des avions qui sont utilisés actuellement par les forces armées israéliennes, des F-35 pour ne pas les nommer. Et une partie des pièces de ces F-35 sont produites dans des États tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège, etc. Ces États donc produisent des pièces qui sont exportées aux États-Unis. Et aux États-Unis, on fabrique des F-35 qui terminent notamment dans l'arsenal des forces armées israéliennes. Donc ceci explique qu'une partie de cet armement, en fait, est la conséquence de la mondialisation de la chaîne de production des armements.
D'accord. Il y a une particularité liée à l'armement produit par Israël. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors l'armement israélien, c'est un équipement, c'est un matériel qui est utilisé. Qui est utilisé actuellement, mais qui a déjà été utilisé dans le passé, dans de nombreux conflits et dans le cadre de l'occupation de la Palestine, donc depuis des dizaines d'années. Et effectivement, ces équipements donc, sont produits et exportés avec une mention « combat proven », comme on dit, c'est-à-dire expérimentés ou testés sur le terrain. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Les équipements israéliens qui sont exportés le sont notamment à des États entre guillemets occidentaux, aux États-Unis et dans certains États européens, mais ils le sont aussi dans d'autres catégories d'États depuis de nombreuses années, des États africains, des États latino-américains, des États d'Amérique centrale acquièrent depuis de nombreuses années des équipements israéliens. L'Inde également est intéressée par les équipements israéliens. Alors parfois il s'agit à proprement parler d'armement, mais parfois il s'agit aussi de formations militaires. Et notamment, depuis de nombreuses années, il y a des anciens membres des services de sécurité ou des forces armées israéliennes qui sont envoyés dans des États latino-américains ou dans des États africains et qui expliquent comment surveiller les populations, comment faire ce qu'on appelle dans le jargon de la contre-insurrection.
D'accord. Une question concernant le rôle, disons, de l'armement belge. Quel rôle pourrait-il jouer en ce qui concerne Israël ? Et bah, je pense notamment à la FNRSTAL, qui est une entreprise très connue quand même d'armement belge, qui dit ne pas vendre d'armes à Israël, et ce depuis des années. Et, qu'en est-il ?
Oui, alors il faut produire une réponse nuancée à ce propos-là. Ma réponse donc, va se focaliser plus spécifiquement sur le cas de la région wallonne. Donc, vous savez qu'en Belgique, les exportations d'armes sont une question qui est régionalisée, ce qui signifie que le gouvernement bruxellois octroie des licences d'exportation aux entreprises qui sont basées sur le territoire ou dont le siège social est basé sur le territoire de Bruxelles. La même chose existe pour la Flandre et pour la région wallonne. La région wallonne est traditionnellement une des régions où on produit le plus d'équipements militaires et où on en exporte le plus. En ce qui concerne la région wallonne, donc je dirais qu'effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas d'équipement militaire produit par FNRSTAHL qui est exporté directement en Israël depuis un certain nombre d'années. Il y a eu des discussions qui ont été menées au niveau fédéral en Belgique depuis 2008-2009 pour limiter les exportations en ligne directe, je vais dire, à destination des forces de sécurité et des forces armées israéliennes. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de cas qui me semblent actuellement problématiques, en particulier 4 ou 5 cas que je vais évoquer rapidement. Tout d'abord, il y a une société qui est basée en région liégeoise qui s'appelle BATS, qui est une société, donc BATS pour Belgian Advanced Technology System, qui est une société qui produit, ou plutôt qui commercialise des radars. C'est une filiale d'une entreprise israélienne, Israel Aircraft Industries. Et donc, c'est une vitrine d'une société d'armement israélienne qui est basée en Belgique. Il semblerait que la raison d'être de cette société, c'est que notamment les sociétés israéliennes qui produisent des équipements militaires avaient du mal à les écouler, à les vendre dans les pays arabo-musulmans, et que donc il y avait besoin en fait de les exporter à partir d'autres destinations. Et c'est comme ça qu'il y a des radars de BATS qui sont exportés au Bahreïn, par exemple. Il y a également des radars de BATS donc, qui sont fournis via Frontex au gouvernement, aux forces de sécurité grecques qui les utilisent le long de la barrière d'Evras. Donc ça signifie que cette entreprise, qui est une filiale d'une entreprise israélienne, est présente sur le territoire de la région wallonne et que, d'une certaine manière, ça fait vivre l'industrie d'armement israélienne. Il y a un autre cas qui est problématique, qui est OIP Land System, qui est présente à la fois en région wallonne mais également en région flamande, qui est une société qui s'est notamment fait connaître ces dernières années en écoulant, en livrant, en exportant en Ukraine des vieux véhicules blindés, des véhicules blindés entre guillemets de seconde main. Et c'est une société qui est une filiale de Elbit, et donc on a le même cas de figure, si vous voulez. Donc cette filiale, eh bien, donc elle commercialise à partir de Belgique des équipements militaires, et donc quand de par sa présence sur le territoire belge, eh bien, donc on contribue à faire vivre l'industrie israélienne d'armement. Un troisième cas problématique qui est évoqué dans un reportage de la RTBF il y a approximativement 6 ou 7 mois de cela, c'est le cas de Safran Aerobooster, qui produit des pièces pour des réacteurs qui sont des réacteurs montés sur des avions états-uniens, des F-15 et des F-16 pour ne pas les nommer. Et il semblerait donc que Safran Aerobooster produit des pièces pour ces réacteurs qui sont exportés aux États-Unis. Et les États-Unis donc montent ces réacteurs sur des avions qui, pour partie, sont exportés en Israël, où ils sont utilisés notamment en Palestine et qui auraient aussi été utilisés probablement au Liban, voire encore dans d'autres régions. Et puis, il y a encore un autre cas qui est problématique, c'est le cas de l'aéroport de Liège, où il y a du transit d'équipements militaires, notamment du transit à destination israélienne. Et donc, on en a parlé dans la presse ces derniers mois. FedEx et une société qui s'appelle Challenge auraient utilisé l'aéroport de Liège pour faire transiter du matériel militaire qui provenait notamment des États-Unis et donc qui ensuite partait en Israël, et du matériel qui très, très probablement a été utilisé en Palestine.
D'accord, merci. Alors, j'ai effectivement une dernière question. Cet entretien est enregistré le 27 août. Il sera diffusé pendant la mission de la flottille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel message avez-vous envie de transmettre aux participants à cette flottille?
Alors, ce que je voudrais dire, c'est ceci, c'est que on a des massacres en cours, des accusations de génocide. C'est une situation qui est tragique actuellement. Il ne faut pas accepter qu'elle se normalise, parce que donc c'est tragique pour le moment en Palestine. Mais si on laisse faire, ce qui nous pend au nez, en fait, c'est que cette situation se reproduise dans d'autres régions du monde. Et donc, il faut agir maintenant pour essayer de faire ce qu'on peut pour les Palestiniens, mais aussi pour éviter que d'autres situations équivalentes se reproduisent. On peut penser éventuellement au cas de l'Inde qui réprime au Cachemire. Les forces de sécurité indiennes s'inspirent beaucoup de ce que font les forces de sécurité israéliennes, par exemple. Si on laisse faire et qu'on normalise un génocide en cours, ça nous pend au nez d'avoir d'autres situations équivalentes, peut-être au Cachemire ou peut-être dans d'autres états du monde. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de se mobiliser et de continuer à parler de la situation actuelle en Palestine. J'ajouterais peut-être ceci, c'est qu'en fait, ceux qui font partie de cette flottille, en fait, ils sont du bon côté de l'histoire. Voilà.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Je vous en prie.
Voilà, c'était Christophe Wasinski qui nous a parlé de l'armement en Belgique et ailleurs. Mais je pense que le rôle de la Belgique est important pour nous, parce que c'est là que nous pouvons agir, en fait.
Oui, c'est aussi un lien avec ce qu'on a pu entendre hier avec Monsieur Dubuisson en ce qui concerne la question du génocide et des implications que ça a, des obligations que ça a pour la Belgique, notamment en matière d'arrêter l'exportation et la vente d'armes et le transit des armes qui passent par le sol belge. C'est vraiment un bon lien, je pense.
Ok, donc c'était notre émission pour aujourd'hui. Elle est un peu plus courte, parfois c'est plus long, parfois c'est plus court, ça dépend. Demain, nous avons un entretien avec Mohamed Khatib de Samidoun, que vous connaissez certainement. On lui a enlevé son statut de réfugié politique au mois d'août, je pense, mais c'est toujours en cours, en fait, la procédure. Donc on l'aura demain. Après l'intervention d'une des personnes sur de la délégation belge sur un des bateaux de la flottille mondiale du Summit. Voilà. Je ne sais pas, Stéphanie, tu as encore des annonces à faire ou quelque chose à dire?
Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait une manifestation le 7 septembre?
Oui, on va encore le répéter. Effectivement, malheureusement, pendant la manifestation, nous serons ici, enfin malheureusement et heureusement, parce que c'est bien de faire une émission évidemment, mais nous aurons une correspondante sur place pour nous raconter la manifestation sur la radio. Voilà. Au revoir et à demain.
Et à demain.
Et on se dit d'être ici. Hein.